La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans LDTC.
Les décroissants tout chauds.
Aujourd'hui, nous vous parlons un peu du cycle du carbone. Commençons donc par lire le premier texte du Grand Livre du Climat, ce livre composé sous la direction de Greta Thunberg, et qui a pour titre « Au commencement était le CO2 ». Il est écrit par Peter Brannen, un journaliste scientifique collaborateur du magazine The Atlantic aux États-Unis. Au commencement était le CO2. Toute forme de vie naît du CO2. C'est le tour de magie originel dont découle le vivant. À la surface de la Terre, avec le seul concours du soleil et de l'eau, le CO2 est transformé en matière vivante grâce à la photosynthèse qui produit de l'oxygène. Le carbone des plantes traverse ensuite le corps des animaux et les écosystèmes et ressort à nouveau sous forme de CO2 dans les océans et l'air. Une partie de ce carbone échappe toutefois à ce cycle et passe dans la Terre sous forme de calcaire, ou de boue riche en carbone, qui dorment au plus profond de la croûte terrestre pendant des centaines de millions d'années. Si elle n'est pas enterrée dans le sous-sol, cette matière végétale est rapidement consommée à la surface terrestre par dégradation métabolique, que ce soit par les animaux, les champignons ou les bactéries. Le vivant utilise ainsi 99,99% de l'oxygène produit par la photosynthèse, et n'en perdrait rien du tout si une partie infinitésimale de matière végétale ne s'infiltrait pas dans les roches. C'est pourtant de là que la planète tient son étonnant excédent d'oxygène. En d'autres termes, l'atmosphère respirable de la Terre n'est pas un don des forêts et des tourbillons de plancton actuels, mais du CO2, fait prisonnier par le vivant tout au long de l'histoire planétaire et confié à la croûte terrestre sous la forme de combustible fossile. Si le CO2 était purement et simplement le substrat fondamental de toutes les créatures vivantes sur Terre, la source indirecte de son oxygène vital, ce serait déjà fascinant. Mais ce n'est pas tout. Cette modeste molécule joue aussi un rôle crucial dans la modulation de la température sur la planète et de la chimie des océans. Quand cet équilibre chimique est bouleversé, le monde vivant est perturbé, le thermostat est cassé, les océans s'acidifient et des créatures meurent. L'importance stupéfiante du CO2 dans tous les composants du système terrestre explique pourquoi il ne s'agit pas d'un affreux polluant industriel qu'il faut réglementer parmi d'autres, comme les chlorofluorocarbones ou le plomb. C'est plutôt, comme l'a écrit l'océanographe américain Roger Revell en 1985, la substance la plus cruciale de la biosphère. La substance la plus cruciale de la biosphère n'est pas à prendre à la légère. La circulation du CO2, qui s'échappe en volutes des volcans, se mêle à l'air ambiant et aux océans, virevolte dans les tourbillons du vivant pour se fondre à nouveau dans la roche. Cette circulation du CO2, c'est la quintessence même de la Terre. Ces phénomènes correspondent au cycle du carbone, et la vie sur Terre dépend de l'équilibre délicat de ce cycle mondial. Le CO2 s'échappe perpétuellement des volcans, et les organismes vivants se l'échangent frénétiquement et constamment à la surface de la planète. Mais la planète l'élimine au même rythme, empêchant ainsi une catastrophe climatique. Les mécanismes cycliques qui font baisser la concentration de CO2, c'est-à-dire l'érosion de chaînes de montagnes, l'effondrement au fond de l'océan de masses de plancton riches en carbone, servent à préserver une sorte d'équilibre planétaire, en tout cas la plupart du temps.
Nous vivons dans un monde tout aussi improbable qu'il est miraculeux. Nous avons l'imprudence de considérer que tout va de soi.
Au cours de l'histoire géologique, il est arrivé que la planète soit poussée au-delà de ses limites. Le système terrestre est certes flexible, mais il peut finir par casser. Et parfois, lors d'épisodes aussi rares que catastrophiques, le cycle du carbone a été complètement bouleversé. À chaque fois, une extinction de masse s'est produite. Imaginons des volcans vastes comme un continent qui consument des royaumes entiers de calcaire riches en carbone et enflamment d'immenses gisements de charbon et de gaz naturel souterrains. Ils injecteraient des milliers de gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Que se passerait-il dans un tel scénario ?
Que se passerait-il dans un tel scénario ? C'est la mésaventure qu'il est arrivé aux créatures il y a 250 millions d'années, peu avant la plus grande extinction de masse de l'histoire de la vie sur Terre. À la fin du Permien, 90% du vivant a été confronté aux répercussions d'un cycle de carbone complètement perturbé par l'excédent de CO2.
Et pendant l'extinction de masse qui a mis fin au Permien, le CO2 a fusé des volcans sibériens pendant des milliers d'années et failli mettre fin à la vie complexe. Tous les garde-fous habituels, inhérents au cycle du carbone, ont cédé lors de cet événement.
Le pire de toute l'histoire géologique.
La température a augmenté de 10 degrés et la planète a été prise de convulsions. Les océans acides, à la température étouffante, ont produit par spasme d'horribles tapis d'algues qui pompaient tout l'oxygène de leurs eaux ancestrales. Cet océan s'est empli de sulfure d'hydrogène à mesure que des ouragans d'une violence extraterrestre envahissaient le ciel. Quand le calme est revenu, on pouvait parcourir toute la Terre sans croiser un seul arbre.
Il a fallu près de 10 millions d'années à la planète pour se remettre de ce choc qui l'avait anéanti.
Et si une lignée du primate Homo, nous, s'employait à faire la même chose que ces volcans préhistoriques, il y a 200 millions d'années? Et s'ils brûlaient ces mêmes gisements gigantesques de carbone souterrain? Non pas au moyen d'une explosion généralisée et spontanée faisant éclater la croûte terrestre comme un super volcan, mais d'une manière plus étudiée, en le tirant des profondeurs pour le consumer en surface, dans les pistons et les forges de la modernité. Voilà la question absurde que nous posons à la Terre et dont nous exigeons une réponse. Mais le climat n'a que faire des slogans politiques et de l'économie.
Il n'est guidé que par la physique.
Il se fiche de savoir si l'excédent de CO2 dans l'atmosphère est dû à un phénomène volcanique qui arrive tous les 100 millions d'années ou à une civilisation industrielle inédite. Il réagira de la même manière. Et la roche contient un avertissement irréfutable. Des archives géologiques qui renferment toutes les apocalypses antérieures. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes encore loin d'atteindre les crescendo cataclysmiques du passé. Il est même possible que la planète résiste mieux aux chocs infligés aujourd'hui au cycle du carbone qu'en ces terribles temps préhistoriques. Cependant, les roches nous signalent que nous manipulons les leviers les plus puissants de la planète
à nos risques et périls.
Un café ? Un décroissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
Ah, c'est pas facile de comprendre le cycle du carbone. Résumons donc, ça se passe entre l'atmosphère, le sol, les océans et le monde vivant. Les animaux, dont nous faisons évidemment partie, et les plantes. Tout ce petit monde, ou plutôt tout ce vaste monde, échange du carbone à travers des processus naturels comme la respiration, la photosynthèse, mais aussi l'érosion des montagnes, l'éruption des volcans ou la décomposition des êtres vivants. Et c'est absolument vital, puisque le carbone est ce qui permet la vie. C'est à partir de lui, nous apprend le magazine Science et Vie, que sont formées toutes les structures moléculaires des êtres vivants. Il est même tellement indissociable de la vie que la chimie du carbone est appelée chimie organique. Mais pourquoi lui ? Pourquoi le carbone ? Pour répondre à cette question, notons que la vie naît de la construction de molécules de plus en plus sophistiquées, protéines, lipides, jusqu'à l'ADN. Or, l'atome de carbone peut former avec ses congénères quatre liaisons permettant une fantastique diversité de structures.
Linéaire, cyclique, ramifié ou même en forme de cage.
En plus d'être à la base de la vie, le carbone et son cycle permet de réguler le climat. C'est lui qui module la température à la surface de la planète et donc
son habitabilité.
Merci Lola, son habitabilité. Bon, c'est complexe, mais passionnant. C'est de la chimie, quoi. Tout a commencé et finira par là. Et pourtant, pas facile de trouver une chanson qui parle de ce fameux cycle du carbone. Beaucoup de chansons d'amour.
Aucun problème de bande son pour votre Saint-Valentin.
Mais peu, si peu. Trop peu sur le cycle du carbone, allez comprendre. Eh bien, nous avons trouvé quand même. C'est une chanson de révision, composée il y a une dizaine d'années par un professeur anglais à l'attention de ses étudiants. Écoutons-la.
Story of the carbon cycle. I close my eyes, in the process starts, I'm floating there in the atmosphere way up there. Then lots of plants or photosynthesize, they take in lots of carbon dioxide and release oxygen for everyone.
Voici l'histoire du cycle du carbone. Je ferme les yeux et le processus commence. Je flotte là, dans l'atmosphère, là-haut. Des tas de plantes se mettent à faire de la photosynthèse. Elles absorbent beaucoup de dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène pour que tout le monde puisse respirer. L'homme et les animaux respirent. Ils absorbent de l'oxygène et rejettent du CO2 dans l'atmosphère et tout recommence. Parce que je suis le carbone et que je ne meurs jamais, jamais, jamais. Je fais le tour du cycle nombreuses fois. C'est le cycle du carbone. Il fait partie de notre vie.
Et en ce 14 février, revenons un instant sur la Saint-Valentin. La rose, rouge, rose, bleu électrique, burke ou jaune, est un désastre écologique. Forcément, puisque près des deux tiers sont cultivés à l'étranger, principalement en Afrique. Si bien qu'un bouquet de roses acheté en France pollue autant que 20 km en voiture. Mais alors, choisissons plutôt les fleurs locales et de saison, comme les tulipes,
les œillets,
les camélias,
les iris,
les anémones,
les renoncules
ou le mimosa. Voilà, les décroissants tout chauds vous saluent bien. Nous vous retrouvons le mois prochain, le 13 mars, ou en podcast, quand ça vous chante.
À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.
Et ciao Gudule.
La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.